Bonsoir. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Les militaires de l'armée burundaise sont entrés officiellement ce lundi 15 août en RDC par la frontière de Kiliba dans le territoire d'Uvira. D'après le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au sud du Sud-Kivu, le lieutenant Marc Elongo, l'entrée officielle de ces militaires, s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des forces prônée par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Cette task force est sous le commandement de la RDC. Elle a pour mission de traquer tous les groupes armés nationaux et étrangers, sans distinction, et de restaurer la paix promue par Félix-Antoine Tshisekedi, a-t-il ajouté. Quelle analyse faire de l'arrivée des militaires burundais sur le territoire congolais? Nous en parlons ce soir avec Jean-Baptiste Kiavunjavunja Mpenda. Il est chargé des programmes du comité de suivi pour la paix et le développement dans Uvira. C'est l'ancien comité de suivi de l'accord de cessez-le-feu signé le 13 mai 2020 entre les groupes armés opérant dans Uvira, Fizi, Mwenga. Jean-Baptiste Kiavunjavunja, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Kali.
Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Alphonse Maindo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et maître Juvenal Munubo Mubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Vous nous suivez sous la 95.3. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Début du déploiement de la force militaire régionale au Sud Kivu. Ce déploiement avait été approuvé à l'issue d'un sommet des chefs d'État ayant réuni au mois de juin dernier à Nairobi les présidents du Kenya, de la RDC, de l'Ouganda, du Sud-Soudan, du Burundi, du Rwanda et le représentant de la présidente de la Tanzanie. Des dizaines de groupes armés s'affrontent aux forces gouvernementales depuis des décennies dans la partie orientale de la RDC. Quelle est la cartographie de ces groupes armés réputés virulents, nationaux et étrangers, ciblés par la force militaire régionale? Fiston Goma nous en parle.
L'agenda et les contours opérationnels de cette force militaire régionale n'est pas encore connu. Selon les observateurs locaux, les contingents de l'armée burundaise pourraient se focaliser d'abord sur les rebelles burundais des Rouets de Tabara, dont la présence avait été signalée dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira et Mwenga. Leur proximité avec la frontière burundaise pourrait expliquer cette option. Les mouvements transfrontaliers ainsi que la présence limitée de l'autorité de l'État dans les zones qu'ils contrôlent ont offert une bonne santé à ces groupes rebelles burundais. Les forêts de Fizi, Uvira et Mwenga hébergent plus de 80 groupes armées locaux et étrangers. La virulence des groupes armés locaux est plus observée dans les hauts plateaux de Minembwe, où des accrochages récurrents opposent les Turwane au Boulozibi-Chambouké. Tandis qu'à l'extrême sud du territoire de Fizi, la menace posée par les activités complexes du réseau Mai Mai Yakutumba, qui opère dans ces zones, ainsi que d'autres groupes armés dont les pygmées Toa, pourraient être combattus. En Ituri, les groupes Kodeko et Zahir opérant dans les territoires de Djougou et FPIC dans les territoires d'Irum sont les plus virulents et pourraient être la cible de la force militaire régionale. Tandis qu'au nord Kivu, les M23 d'Ambunagana et les Rutshuru, FDLR éparpillés dans le parc de Virunga depuis 1994, les ADF dans Beni et les environs, les Nyatura dans le Masisi ainsi que les Mai Mai APCLS. Pour plusieurs observateurs, cette guerre est asymétrique et complexe au regard des alliances existantes entre tous ces groupes armés locaux avec les groupes armés étrangers proches des forces militaires qui viennent les combattre. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Je l'ai dit dans mon introduction, les militaires de l'armée burundaise sont entrés officiellement hier lundi 15 août en RDC par la frontière de Kiliba en territoire d'Ouvira au sud Kivu. Le déploiement des militaires burundais dans la région est du pays intervient pendant que l'armée ougandaise mène également des opérations conjointes avec les FRDC contre les EDF depuis bientôt 9 mois. Pierrot Elamegi nous décrit dans ce reportage comment sont déployés les FNB et l'UPDF en RDC.
L'armée ougandaise est déployée depuis novembre 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les territoires de Beni et d'Irumu sont les principaux champs d'action de l'UPDF. Dans cette région, environ 1 700 militaires des forces spéciales et de l'infanterie de l'armée ougandaise déployés avec leur artillerie et les blindés mènent des opérations conjointes avec les FRDC contre les rebelles de l'ADF. Ces militaires de l'UPDF sont placés sous le commandement du général-major Kayandia Mohanga qui a son quartier général dans les territoires de Beni. Depuis hier lundi, un contingent de l'armée burundaise est entré officiellement sur les sols congolais par la frontière de Kiliba au sud Kivu. Même si ces soldats sont encore cantonnés au centre d'instruction de l'armée à Lubirizi dans la plaine de la Ruzizi, ils devront se déployer dans la zone du secteur opérationnel Sokola 2 sud de FRDC, couvrant toute la province du sud Kivu. Objectif, traquer tous les groupes armés congolais et étrangers dans le cadre de la mutualisation des forces décidée par le chef d'état de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le déploiement d'autres contingents des pays de l'EAC est attendu dans l'est du pays.
Merci Pierrot et la Mégie pour ce reportage. Jean-Baptiste Kavundavunja-Mpenda, je rappelle que vous êtes chargé de programme du comité de suivi pour la paix et le développement dont Ouvira s'est lancé un comité de suivi de l'accord de cessez-le-feu signé le 13 mai 2020 entre les groupes armés opérant dans Ouviri, Fizi, Mwenga. L'armée burundaise est officiellement entrée en RDC hier lundi 15 août par la frontière de Kiliba dans le territoire d'Ouvira. Comment la population d'Ouvira a accueilli cette arrivée des militaires burundais?
Oui, madame, je vais commencer par saluer tous les auditeurs de la radio Okapi et aussi présenter mes condoléances à toutes les familles qui perdent leur bien-aimé chaque jour dans le conflit qui sévissent il y a plus d'une décennie à l'est de la RDC. Juste quand la population a appris de l'entrée de ces troupes burundaises ici chez nous à Ouvira par Kiliba, les sondages que nous avons essayé de faire, c'est que la majorité de la population n'a pas confiance par l'entrée de ces troupes burundaises. On n'a pas confiance que la paix puisse venir de ces troupes burundaises ou kenyanes et d'autres qui pourront venir. La population n'a pas tellement confiance par le fait que la MONUSCO, qui a fait déjà deux décennies avec un arsenal vraiment significatif, les effectifs très significatifs, n'a pas pu restaurer cette paix. Voilà les doutes qu'il y a dans le cœur des gens et qu'ils confessent, mais par les lèvres. Merci.
Et vous, comment vous analysez ces déploiements des militaires burundais dans la province du Sud Kivu pour traquer les groupes armés locaux et étrangers?
Oui, maintenant, comme analyste et acteur dans la recherche de la paix dans cette partie de l'Est, mon analyse est telle que Tout est possible. Il n'y a pas un pays qui travaille à vase clos dans tous les secteurs de la vie. Tous les pays du monde, puissants ou pauvres, ils ont toujours besoin d'un autre pays, puissant ou pauvre aussi, pour que de ce pays-là, il puisse avoir ce que lui n'a pas et donner ce qu'il a. Il peut arriver que par nous-mêmes, les Congolais, nous n'avons pas pu restaurer la paix, mais par les voisins, nous pouvons restaurer la paix. Moi, je peux, personnellement, je peux compter sur ce groupe par le fait que, dans ce conflit qu'il y a à l'Est, il n'y a pas que les groupes armés locaux, mais il y a intervention de groupes armés étrangers. Et lorsqu'on fait appel à ces pays voisins, à ces pays étrangers, je pense que quelque part, nous pouvons, si nous travaillons en toute sincérité, les Congolais, les militaires congolais, les politiques congolais, ainsi que Burundais, Ougandais, consorts, si on travaillait en toute sécurité, il y a lieu qu'on puisse réduire les menaces, les conflits armés qu'il y a ici chez nous.
Jean-Baptiste Kavunja-Vunja, il y a une certaine opinion qui pense qu'il ne faut pas beaucoup compter sur les forces armées des pays voisins parce que ce sont ces mêmes pays qui sont derrière certains groupes armés qui sont en RDC, qui sont sur le territoire congolais.
Oui, ça c'est juste. Je peux d'abord commencer par Il y a des pays qui entretiennent là pour des objectifs différents. Je prends par exemple comment est-ce que le Rwanda s'est retrouvé ici avec le de Tabara. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda présente une menace contre le Congo et contre le Burundi. Pourquoi et comment? Quand il y a eu un coup d'État manqué en 2015 au Burundi, les rebelles qui ont manqué le coup d'État, qui étaient dirigés par un certain Godefroid Niyongabo, sont venus faire leur maquis ici en RDC, appuyés par le Rwanda, et cela est connu par tout le monde. Alors, ces gens opérant ici, ce n'est pas très loin de la frontière, parce que Uvira et Bujumbura, c'est à 15 kilomètres, et ces troupes opèrent dans les moyens et au plateau, ce n'est pas très loin du Burundi. Le pouvoir burundais s'est retrouvé sous menace du Rwanda par les raids de Tabara. C'est ainsi que, voilà les motivations, le Burundi va aussi déployer, bien sûr, un accord signé avec la RDC à l'insu de la population. La population n'étant pas au courant de tout cela, l'armée burundaise est entrée sous le nom des Imbonerakure pour venir essayer d'arrêter à partir de la RDC la menace qui les guettait d'être attaquée par les raids de Tabara. Ça, c'est parmi les motivations. La motivation du Rwanda n'étant pas autre que de stabiliser le Burundi et la République démocratique du Congo. Mais pour les Burundais, c'est pour se protéger de cette menace prévisible par les raids de Tabara.
Et donc, Alors, si on comprend bien, oui. L'armée burundaise est sur le sol congolais pour plutôt protéger son pays, mais pas pour restaurer la paix en RDC et neutraliser toutes ces forces, ces groupes armés qui sont dans cette partie du pays.
Effectivement, les forces armées d'autodéfense en seront maintenant victimes, mais l'objectif pour lequel l'armée burundaise est motivée à venir ici, c'est pour traquer ces rebelles de Tabara qui se présente comme une menace active contre le pouvoir de Bujumbura. C'est ça le motif, c'est ça l'objectif majeur de l'entrée de l'armée burundaise en RDC.
Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, quelle lecture vous faites de cette entrée de l'armée burundaise qui est entrée officiellement en RDC hier, lundi 15 août.
Oui, bon, vous savez, ce qui se passe actuellement dans notre pays avec cette entrée, c'est simplement une officialisation de ce qui s'est passé déjà. En fait, on est en train de formaliser des choses qui se passaient déjà, parce qu'on sait qu'on avait déjà les armées burundaises, rwandaises, ougandaises qui étaient là. Maintenant, il faut formaliser ça. Mais ce qu'on vit là, c'est pratiquement une espèce de conférence de Berlin régionale où on va se répartir, on reconnaît les zones d'influence des différents États sur la République démocratique du Congo. Le Burundi va contrôler un espace, le Rwanda un espace, même si on dit officiellement que le Rwanda n'interviendra pas, mais on sait qu'il est là, l'Ouganda aussi, et le Kenya qui vient aussi pour préserver ses intérêts, notamment parce qu'ils ont mis la main sur deux principales banques congolaises. Donc on a là, si vous voulez, chaque pays qui vient pour faire du business. Voyez-vous, c'est de l'affairisme. Et donc on met les pays en coupe réglée. Et nous qui sommes de Kisangani, qui avons vécu ce que cela représente, quand vous avez comme ça plusieurs armées étrangères sur le territoire national, chacun avec ses propres intérêts, il y a des risques qu'il y ait des affrontements entre eux. Kisangani a vécu ça trois fois de suite. L'Ouganda et le Rwanda se sont affrontés par trois fois. Et la troisième fois, ça a duré six jours et ça a fait des milliers de morts. Et donc, il est possible qu'on revienne à ça. Pour moi, donc, c'est une erreur. C'est bien que le gouvernement se préoccupe par tous les moyens de trouver une solution à la tragédie qui affecte nos compatriotes de l'Est, qui a trop duré. Mais il faut trouver des bonnes solutions. Et les bonnes solutions. Parce que si on ne prend pas de bonnes solutions, on va avoir des problèmes encore plus graves. Et quelles sont les règles d'engagement de ces États qui viennent au Congo? On ne connaît pas les règles d'engagement. Quels sont les accords qui ont été signés? On ne les connaît pas. Qui va payer la facture de leurs interventions? Comment ça sera payé? Tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mette sous la table, puisque ça nous met en danger.
Alors, comment vous répondez, professeur, à cet auditeur qui nous écrit de Kinshasa, qui pense que cette task force est la bienvenue sur le territoire congolais, étant donné que la mission est précise et bien déterminée? Ce qu'il faut, c'est de soutenir la vision régionale qui est de ramener la paix en RDC.
Bon, écoutez, je pense que il va regretter, si vous voulez, d'ici quelques années, il va regretter les problèmes qui vont se poser. Ce qu'on reproche aujourd'hui à la MONUSCO et à d'autres institutions, c'est ce qu'on va reprocher aussi à cette force dite régionale. Puisque ça n'a de régional que de nom. En fait, c'est des forces nationales qui interviennent chacun avec ses propres règles d'engagement, avec ses propres moyens et ses propres capacités opérationnelles. Donc, on va pas avoir les solutions. La vraie solution, c'est que nous puissions améliorer, faire monter en compétences, en capacité, nos propres forces armées. Il faut faire une véritable réforme de notre secteur de sécurité pour adresser les problèmes de conflits qu'on a à l'Est. Et c'est comme si on donnait à un violeur, on lui donnait en mariage la victime de son viol. Voyez-vous ? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les gens qui nous violent, les pays qui nous agressent, qui nous pillent, qui nous détruisent, c'est à eux qu'on demande maintenant qu'ils viennent pour redresser notre pays. C'est absolument absurde, c'est incompréhensible.
Et vous pensez que ces pays qui viennent aider la RDC à ramener la paix sur son territoire ne sont pas sincères, professeur Alphonse Maïndou ?
Ne sont pas sincères. Regardez, l'Ouganda, par exemple, est au Congo depuis combien d'années ? C'est depuis l'AFDL, depuis 1996, que l'Ouganda est au Congo en train d'opérer, parfois officiellement, parfois officieusement. Et quels résultats on a? Au contraire, ces pays veulent quoi sur le plan géostratégique? Tous ces pays-là, nos voisins, ne pensent qu'une seule chose, faire en sorte que le Congo explose ou implose de l'intérieur et que le Congo ne puisse jamais être ce qu'il doit être, c'est-à-dire la locomotive de la région, que nous ne puissions pas assurer le leadership comme Mobutu l'a exercé avec les Zaïre pendant de longues années. Museveni veut être le leader de la région, Kagame pareil, et donc ils ont intérêt à ce que le Congo s'affaiblisse et finisse par exploser ou par éclater ou être balkanisé pour être faible, comme ça et ils vont profiter et ils vont dominer la région. Et c'est cela l'enjeu que nous, Congolais, on doit pouvoir comprendre et changer de paradigme.
Jean-Baptiste Kavunja, il y a Jacques Biaounda, Biamès, qui nous écrit depuis Baraka au sud Kivu. Lui, il pense qu'en faisant entrer l'armée burundaise en RDC, le gouvernement est tombé dans un piège, étant donné que l'armée burundaise était déjà sur le sol congolais, dans le haut plateau d'Uvira, il y a plus d'une année, sans résultat, ce qui a poussé aussi le Rwanda, par l'intermédiaire du M23, d'entrer au Congo. Ceci n'a aucune garantie pour le retour de la paix dans la région. Ça va plutôt aggraver la situation sécuritaire.
Oui, je peux ne pas être d'accord avec lui par le fait que moi j'ai une autre vision un peu contraire à celle-là. Vous savez, dans toutes les guerres qui se sont déjà déroulées et dans les guerres qui se déroulent sur la planète aujourd'hui, s'il faut prendre l'exemple le plus récent de l'Ukraine et la Russie, vous trouvez que la Russie, malgré qu'elle est puissante sur l'Ukraine, mais elle a toujours besoin d'autres partenaires pour se renforcer. L'Ukraine aussi a besoin de partenaires pour se renforcer. Mais la RDC aussi, pour chercher des solutions au problème, étant donné que les conflits qui se vivent en RDC, ce sont des conflits qui intègrent d'autres nations, des nations voisines et des nations même très loin de nos frontières. Donc la solution au problème du Congo ne peut pas être trouvée par les Congolais eux-mêmes. La solution pour le problème du Congo nécessite de toutes les manières là l'implication de toutes les autres nations, des autres États. Mais cela ne va pas. Le Congo maintenant, ayant fait appel à cette force régionale et à d'autres forces, le Congo ne doit pas croiser les bras. Parce qu'on peut nous aider à réduire sensiblement ces conflits, mais le Congo a un devoir de réformer l'armée à tous les niveaux, parce que notre armée est infiltrée de la base au sommet. Voilà le travail que le Congo doit faire, malgré les secours qu'on peut demander de l'extérieur. Le Congo doit réformer les services de sécurité de la base au sommet. Le Congo doit réformer ses services de renseignement. Il faut voir que les services de renseignement, le Congo doit avoir le contrôle sur la télécommunication. Dans d'autres pays, je prends l'exemple du Rwanda ou du Burundi, il suffit que vous puissiez lancer un message incitateur au conflit ou autre chose, il y a la possibilité de vous repérer et de vous cibler là où vous êtes, et dans 15 minutes, 20 minutes, on tombe sur vous. Tout ça, c'est les stratégies que le Congo aussi doit mettre en place, même s'il est en train de demander les aides ici et là. Il y a possibilité d'avoir la paix. Par exemple, ici chez nous, on a déjà mis en place les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, les PDDRCS. Ce programme-là se chargera de désarmement et de mobilisation de tous ces groupes armés locaux. Alors, comment traquer ces groupes armés étrangers avec le concours des pays voisins, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, s'il faut prendre le Soudan du Sud, le Burundi. Si on parvenait à éradiquer ces différents groupes armés étrangers que je peux vous citer ici, il y a ici chez nous, il y a le FDLR FOCA, il y a le FDLR CNRD, il y a le FNL du général Aloïse Zabampema, il y a Forebou du général Godefroy Niyombare, il y a RNC Kayumba, du général Kayumba. Donc vous comprenez, il y a tellement de groupes armés, il y a aussi les Tabara plus actifs d'ailleurs, qui sèment terreur et désolation dans nos communautés. Si ces troupes étrangères de cette force régionale peut contribuer à l'éradication, à juguler ces groupes armés étrangers, et pour les groupes armés locaux, vraiment, il y a possibilité que ces derniers puissent se rendre d'eux-mêmes, parce qu'ils n'auront pas de soutien, ils n'auront plus de soutien, parce qu'actuellement, peut-être qu'on va les développer dans l'émission, il y a des coalitions, il y a des coalitions qui se font entre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers que nous venions de citer là. Donc, il suffit qu'on brise les ponts entre ces groupes armés, les groupes étrangers et locaux. Les locaux deviendront faibles et la majorité d'entre eux, vous avez dit au début que, oui, COSUP, c'était le comité de suivi de l'accord cessez le feu du 13 mai 2020. Il y a la majorité de ces groupes armés locaux sont prêts pour adhérer au programme PDDRCS. Ils ne posent pas beaucoup de problèmes, mais ils peuvent demeurer réfractaires tant que ces groupes armés étrangers opèrent en toute indépendance sur le sol congolais et aux côtés de ces groupes armés locaux.
La réalisation me signale que Maître Juvenal Mounoubo Mobi est en ligne. Vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu et cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, mais aussi membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée Nationale. Maître Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Comment vous analysez l'arrivée ou l'entrée des troupes burundaises sur le territoire congolais, l'entrée officielle?
Alors, d'abord, il y a des pays comme le Burundi, comme le Rwanda, comme l'Ouganda, dont la participation pose problème parce que ces pays sont accusés et même ont été reconnus coupables d'agression du Congo dans les années écoulées. Et d'ailleurs, le Rwanda nous agresse actuellement, agresse le Congo, et l'Ouganda est soupçonné d'agression. Et donc, ça pose déjà problème parce que c'est des pays qui sont accusés d'agression. Ça, c'est une première considération. Une deuxième considération, c'est que c'est des pays... par exemple, entre le Burundi et le Rwanda, c'est des pays qui ne s'entendent pas. Entre le Rwanda et l'Ouganda, c'est des pays qui ne s'entendent pas entre eux. Et donc, le risque, c'est que le Congo devienne comme une sorte de champ de bataille, quoi, pour les règlements des conflits, pour une lutte de positionnement des pays de la région. Raison pour laquelle il n'était pas du tout de la prudence que des pays comme le Burundi, le Rwanda ou l'Ouganda participent ou fassent partie de la force. Il y aurait moyen de recourir à d'autres. Mais ces pays-là, les trois pays, quand même, ce n'est pas du tout prudent. Alors, autre chose, c'est que les motifs avancés, c'est souvent de lutter contre les groupes armés. Le Rwanda a annoncé cela aussi comme motif. lors de la deuxième guerre du Congo. Mais le problème, c'est que en plus de la lutte contre les groupes armés, il y a d'autres motifs qui se dévoilent par la suite. C'est l'exploitation des minerais, c'est l'exploitation illégale des ressources naturelles. Donc ces pays ont exploité les ressources naturelles au Congo illégalement, et ces pays servent parfois de transit pour l'évacuation des minerais exploités illégalement à l'est du Congo. Et donc pour ces trois raisons, je pense que, avec ma petite expérience d'acteur qui œuvre dans le domaine sécuritaire, j'estime que la force, oui, elle peut venir, elle peut être une contribution complémentaire aux efforts des FARDC. Je souligne bien complémentaire parce que les gros doivent provenir du gouvernement congolais. C'est question de réorganiser l'armée, de placer les militaires dans des bonnes conditions de vie et de travail, qui ne manquent pas à manger, qui ne manquent pas les équipements, qui ne manquent pas les médicaments. Donc c'est une force complémentaire, mais qu'elle ne soit pas composée de ces trois pays, parce qu'on a quand même des contentieux avec ces pays, à savoir les Rwanda, l'Ouganda et les Burundi. Et on parle du Burundi dans cette émission.
C'est quand même une décision qui avait été prise lors de la dernière réunion des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Maître Juvenal Mounoubou. Je pense que du côté congolais, on a réfléchi sur tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure avant d'accepter que cette force soit déployée en RDC.
Oui, la décision, elle a été prise, mais la population congolaise n'a pas été consultée pour autant. Parce que vous n'allez pas inviter les agresseurs pour lutter contre l'agression. Donc ça serait absurde. Si on avait demandé l'opinion congolaise, la société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu, par exemple, s'agissant des Burundais, du Nord Kivu, par exemple, s'agissant des Rwandais ou de l'Ituri, s'agissant des Burundais, eh bien, je ne pense pas qu'ils accepteraient que ces forces arrivent. Le problème, c'est qu'on décide au sommet, on décide à Kinshasa, on décide à Nairobi sans consulter l'opinion. C'est ça le problème. Les populations croient encore que c'est possible que les FARDC ramènent la sécurité. Et donc, on ne peut pas sous-traiter notre sécurité. Donc, le gros devait être, malgré les faiblesses qu'on peut avoir, elle reste notre armée. Et si Goma n'est pas encore tombée, c'est parce que cette armée a fait quelque chose. Alors, il ne faut pas la négliger. Il y a un problème de confiance. Il y a un déficit de confiance par rapport à nos partenariats avec ces pays-là. Ça reste des pays voisins. Ils pourraient se limiter à un échange de renseignements. Et je suis presque sûr que le Burundi a des renseignements sur les raids Tabara, sur les FNL et sur d'autres groupes armés burundais qui sont sur le haut plateau et dans la plaine du site Kivu. Alors, ils peuvent livrer et partager les informations. Je sais que le Rwanda a des informations sur les FDLR. Le Rwanda peut livrer et partager les informations au Congo. Je sais que l'Ouganda a des informations sur les ADF. L'Ouganda peut livrer et partager les informations telles qu'elles lui exigent d'ailleurs. La CIRG, parce que tous ces pays font partie de la conférence internationale de la région des Grands Lacs.
L'arrivée de la force régionale sur le territoire congolais n'est donc pas la solution pour ramener la paix dans la partie orientale de la RDC.
En tout cas, je pense qu'on risque de compliquer davantage une situation déjà compliquée. Donc ça risque d'être une complication de plus. Et c'est une sorte de... On sous-estime un peu les efforts congolais. Et pourtant, le Congo est encore en mesure de déployer des efforts. Donc il ne faudrait pas qu'on soit dans une sorte de découragement où nous ne croyons plus à nous-mêmes. Les voisins, les étrangers, ils arrivent, mais en ne sachant pas exactement jusqu'où vont leurs ambitions. Vous voyez, donc nous pouvons penser que leur souci, c'est la sécurité de l'Est du Congo, mais il faut faire attention, ils ont d'autres visions. Ils l'ont eu à le démontrer à différentes occasions. C'est pas la première fois qu'on invite ces forces. Ils ont été ici soit par force, soit invités. Alors, toutes les fois qu'ils ont été invités, eh bien, ils ne se sont pas limités uniquement à s'intéresser aux questions sécuritaires. Ils ont commencé d'abord à chercher là où se trouvent les comptoirs, là où se trouve le minerai. Et c'est pour cela qu'on dit toujours que c'est une guerre économique.
Vous allez rester en ligne, Maître Juvenal Mounoubou. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Jordan Saïdi, président de la nouvelle dynamique de l'hosté civile. Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. L'arrivée des militaires burundais sur le territoire congolais est une preuve éloquente que le gouvernement congolais ne s'est pas encore rendu compte du fiasco des opérations mixtes entre les éléments des UPDF et ceux de la FARDC, pour ne pas citer celles de militaires kenyans. Tant qu'on va dépendre des troupes étrangères pour régler la question de la sécurité dans l'est du pays, cela ne marchera pas. Certains groupes rebelles sont en lien avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, qui devaient être mis à marge de toute action visant à rétablir la paix en République démocratique du Congo. L'État congolais doit plutôt concentrer les efforts sur la création d'une armée professionnelle. Parlant, je voulais épingler l'amélioration des conditions de vie de nos militaires, en lieu et place de faire recours aux armées des États agresseurs.
Alors, il aborde un peu dans le même sens que vous, cet auditeur au Jordan Saïdi Atibou, Maître Juvenal.
Il a raison, Monsieur Atibou. C'est comme si on s'était concerté. Eh bien, on ne s'est pas concerté. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit comme moi. Et donc, il a raison. Il a raison. Et là, il nous pousse aussi à évaluer les partenariats entre les FRDC et l'UPDF, c'est-à-dire l'armée ougandaise, dans la zone Beni. Beaucoup de députés, hein, des collègues du Nord Kivu, hein, surtout élus de Beni Butembo, Lubero, ont soutenu cette entrée des troupes aux Ougandaises. Mais je crois que depuis que l'armée ougandaise opère aux côtés des FRDC, je ne crois pas qu'on est arrivé à des grands résultats parce qu'il y a encore des embuscades, il y a encore des morts dans cette zone, il y a encore des tueries. Donc on n'est pas, ça nous a pas permis de vivre en paix la situation où on avait des commandants vaillants comme Mamadou Ndala. Vous voyez que toutes les fois qu'il y a eu réussite, c'était le fruit des efforts internes. C'est la raison pour laquelle il faut investir en interne.
Merci.
Et toutes les contributions extérieures, il faut le considérer comme des contributions. Que ça soit la MONUSCO, que ça soit une force régionale, eh bien, il faut se limiter, il faut considérer ça comme juste une contribution. Et ce n'est pas eux qui nous amèneront la sécurité. La sécurité doit provenir d'abord des efforts des Congolais, du gouvernement congolais et de l'armée congolaise, et des populations congolaises qui soutient le gouvernement et les forces de sécurité.
Professeur Alphonse Maïndo, on va se rendre à Bukavu pour prendre aussi pour vous la réaction de cet auditeur.
C'est Gilbert Bualiboudougui de Bukavu au Sud Kivu. C'est vrai, tous les coups peuvent être utilisés pourvu que la paix soit restaurée, car on en a marre. Cependant, je me suis toujours demandé si le fait de recourir aux voisins est une preuve qu'il y a insuffisance des éléments FRDC ou un problème de logistique. Nous avons toujours crié et pensons que cette approche souvent mise en avant-plan par nos autorités ne nous apporterait jamais la paix, car les mêmes voisins, souvent accusés d'être en complicité avec les rebelles, sont les mêmes curieusement recrutés pour mettre fin à cette situation. C'est paradoxal. Également, je présume que cette approche peut décourager nos militaires qui sont souvent sur les champs de bataille et malheureusement maltraités et mal commandés par la politique. À vrai dire, les jours que l'homme politique se mettra au travail sans hypocrisie et agenda caché contre la nation, cette bêtise prendra fin dans moins de 5 jours. Je regrette juste de constater qu'on fait semblant de s'activer pour résoudre les conséquences au lieu de combattre les causes qui sont les chômages déguisés des jeunes qui les amèneraient à soutenir les groupes armés, mais aussi et surtout l'injustice sociale est très criante au pays. Et pourtant, ce pays nous appartient tous.
Professeur Alphonse Maïndo.
Je crois que l'auditeur, notre compatriote de Bukavu, je suis vraiment en phase avec lui, parce que on ne peut pas chercher à résoudre un problème en créant un autre plus grave que celui qu'on a, plus grave que celui qu'on veut résoudre. Parce que là, lorsque l'on amène les troupes étrangères officiellement, alors qu'on sait que ces États-là sont des États qui sont en train de nous déstabiliser, on les ramène officiellement, ça veut dire que on n'a pas fait le bon diagnostic. Et si on se trompe du diagnostic, ça signifie qu'on ne va pas donner la thérapie qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas la solution adéquate. Et donc, on va tourner en rond. Et au lieu de regarder comment on peut, j'insiste sur ça, comment on peut faire une véritable réforme de notre secteur de sécurité pour que nos forces armées qui disposent d'un certain nombre d'éléments vaillants, on connaît, on a eu des héros dans des Congolais, les Mamadou Ndala, le Mbuzamabe et tant d'autres. Mais on en a encore d'autres qui sont là-bas. Il faut simplement renforcer les capacités, il faut faire une réforme, nettoyer les mauvais éléments qui nous ont été impliqués dedans pour les mettre à côté. Mais ça me permet aussi de rebondir sur un point important. Voyez-vous, tous ces gens qui font la guerre au Congo, les miliciens là, les chefs de guerre qui sont devenus des professionnels de la guerre, la plupart sont des gens qui ont été cités dans des rapports, notamment les rapports Mapping, et c'est l'impunité qui leur assure cette survie. Si nous étions sérieux, une de solutions que nous devrions utiliser, c'est de demander une justice transitionnelle, comme certains pays l'ont demandé, la RCA, tout ça.
avoir même des chambres mixtes à défaut d'un tribunal pénal international pour poursuivre ces criminels. Si on les arrête, on les met en prison, ça va décourager tous les chefs de groupes armés. Et donc, mais y compris ceux qui sont dans les pays voisins. Et là, nous ratons toujours cette opportunité-là. Pourquoi notre pays, notre gouvernement ne demande pas ces tribunaux pénal international ou des chambres mixtes qui permettraient de contribuer à ça? Et après, on fait la réforme, on équipe de forces armées, on leur donne la logistique, etc., pour qu'ils puissent se battre comme ils le doivent et qu'ils soient honorés. S'il y a un militaire qui meurt au fond, qu'il soit honoré, que sa famille soit récompensée, qu'on donne un drapeau, qu'on fasse un jour de souvenir pour ces gens-là. Pourquoi on fait dans notre pays, quand un soldat français meurt quelque part ou américain, on fait quand même un deuil, le commandant va remettre un drapeau à sa famille pour annoncer. Mais pourquoi on ne le fait pas chez nous? Voyez-vous, tous ces éléments-là nous amènent à penser une chose, et je voudrais donner ici un exemple. Bon, en soulignant que les forces extérieures n'ont jamais résolu les crises dans aucun pays. Même les armées les plus puissantes. Regardez ce que l'Amérique a tenté de faire en Afghanistan, imposer la paix. Les États-Unis, c'est la première puissance militaire mondiale. Ils ont échoué. Voyez-vous ? Donc, ne rêvons pas. La seule armée qui doit défendre le Congo, c'est l'armée congolaise. Investissons dans l'armée congolaise et nous ferons la différence.
Professeur Maindo, la force régionale doit être composée des armées, des États, de la communauté, des États d'Afrique de l'Est. Donc on attend encore que d'autres armées puissent intervenir en RDC, notamment l'armée kényane. Mais avec le changement de régime aujourd'hui dans ce pays, pensez-vous que l'actuel président du Kenya va poursuivre avec le processus de Nairobi qui a commencé avec son prédécesseur?
Je pense que si on s'en tient au principe selon lequel les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, je vois très bien le nouveau président qui puisse continuer les accords qui ont été pris parce que ça permettra de sécuriser les investissements kényans en RDC. Je rappelle ce que j'ai dit tantôt ici, il y a deux grandes banques congolaises, en l'occurrence la TMB et la BCDC, qui ont été rachetées totalement par par des banques kényanes, et il y a d'autres intérêts aussi, et il y a des compagnies d'aviation, tout ça. Donc il y a de gros intérêts. Et donc ces hommes d'affaires vont donc rappeler au nouveau président qu'il y a des intérêts kényans et qu'il faut défendre, en plus de pétroliers qui nous amènent, qui fournissent la provision de l'Est ici en carburant. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier non plus que ce président-là, c'est quelqu'un qui a humilié les Congolais. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les Congolais, c'est un peuple qui danse, qui s'amuse et tout ça, alors que son pays est en train de sombrer. C'est des gens qui savent même pas faire d'élevage de vaches et tout ça, et ils importent tout. Et donc, il disait, il faut qu'on y aille là-bas parce que ce pays-là, les gens-là sont des jouisseurs, ils font rien. Et donc, voyez-vous, quelle image il a de nous. Et donc, ce président-là, voyez-vous, il peut venir ici. S'il envoie ses troupes, ses troupes viendront ici avec une espèce de dédain, de mépris des Congolais. Professeur, donc, il faut vraiment qu'on pense à tout ça.
Jean-Baptiste Kavunja-Vunja, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Kananga.
Laurent Mignon, il passe à Kananga, au quartier central. Je salue la diplomatie active du président Fati, qui tend à restaurer la paix dans la région de l'est du pays. Mais je reste sceptique quant à la réussite de cette force militaire burundaise dans le sol congolais, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'une armée étrangère foule la terre congolaise. Nous savons qu'on est les Ougandais et autres. Chose hélas, la paix n'est toujours pas été restaurée. Je reste aujourd'hui cette force et la paix et la sécurité rentrent dans les attributions régaliennes de tout État.
Jean-Baptiste Kavunja-Vunja.
Oui, madame, ce qu'il dit là, ça se marie à mon idée. Vous savez, on ne doit pas toujours regarder en arrière. En arrière, bien sûr, il y avait tel régime au Burundi qui n'est plus le même régime aujourd'hui. Les régimes qui ont précédé au Burundi dans les années d'avant 2000 ans, ce sont des régimes qui étaient à 100% contre le Congo. Nous pouvons partir de 98 jusqu'à un peu plus proche là. Mais avec le régime du président qui venait de quitter et l'autre président ici, aujourd'hui, les relations entre le Burundi et le Congo sont au beau fixe. tandis que les relations entre le Burundi et le Rwanda, ces relations ne sont pas bonnes. C'est pourquoi on ne doit pas seulement rester là à regarder en arrière. Pour des problèmes...
Vous proposez quoi pour trouver la solution? Qu'est-ce que vous proposez?
Je propose qu'on puisse soutenir les efforts que le gouvernement congolais est en train de fournir pour chercher la paix. Vous savez, la solution aux problèmes locaux, il faut des solutions locales. Et pour des problèmes régionaux, il faut des solutions régionaux. Raison pour laquelle, au niveau local, nous avons le PDDRCS, et au niveau régional, il faut ipso facto l'implication d'autres pays étant acteurs directs ou indirects dans les conflits qui sévissent chez nous. Il faut compter sur les efforts du gouvernement. Il ne faut pas être seulement pessimiste. Il y a possibilité que nous puissions appuyer les efforts du gouvernement, que le gouvernement puisse, moi j'insiste bien, je ne parle pas qu'il faut seulement doter les phares de ceci, qu'il mange, qu'il ait un bon salaire, cela ne suffit pas. Il faut réformer les phares d'essai. Qu'est-ce que j'entends par réformer les phares d'essai? Les phares d'essai sont infiltrés, je le dis bien, de la base au sommet. Que le gouvernement prenne le courage d'identifier tous ces intrus-là qui se sont infiltrés depuis plus de 2 décennies dans les FRDC, les identifier, les traquer, les bouter dehors des FRDC. Il faut réformer les services de sécurité, les services de renseignement. Voilà ce qui peut nous aider, même si on amenait tous les pays du monde ici, qu'ils viennent nous aider. Mais tant que l'armée, tant que les FRDC, la police, l'ANR et d'autres services de sécurité, la DGM, ne sont pas réformés, ne sont pas nettoyés, nous irons toujours d'échec en échec malgré l'aide qu'on peut nous amener.
Merci Jean-Baptiste Kavunja-Vunja. On va considérer cela comme votre conclusion. Maître Juvenal Mounoubou-Moubi, nous sommes à la fin de notre mission. Puisque vous êtes assez sceptique par rapport au retour de la paix avec l'intervention des forces des pays voisins, qu'est-ce que vous proposez pour vraiment mettre fin à cet activisme des groupes armés dans la partie orientale de la RDC?
Au fait, ce que je propose, c'est quoi? Je propose au gouvernement d'examiner les rapports de la commission de défense et sécurité, parce que la commission de défense et sécurité de l'Assemblée a mené une évaluation de l'état de siège. Et c'était une évaluation non complaisante, où on a invité le ministre de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, du budget, des finances. Et il y a des recommandations là-bas pour que notre armée soit un peu plus forte. Et nous avons recommandé à ce qu'on puisse procéder au changement de la chaîne de commandement. Et nous avons recommandé aussi à ce que le militaire ne manque pas à manger. Nous avons recommandé à ce que les militaires ou l'armée aient les équipements qu'il faut pour mener la guerre. Nous avons recommandé aussi à ce qu'on puisse développer les relations entre les civils et les forces de sécurité. Alors, je ne peux pas revenir ici sur toutes les recommandations d'un rapport bien étoffé, d'ailleurs. Et c'est question de l'examiner en conseil des ministres, parce qu'on l'a jamais fait. Et c'est mieux que ces rapports soient examiner en Conseil des ministres, et nous sommes sûrs que si les gouvernements écoutent les points de vue des parlementaires, notamment aussi des parlementaires élus au Nord Kivu et à Ituri et au Sud Kivu, je crois qu'on pourra retrouver la paix. Et donc la solution, ce n'est vraiment pas d'aller à gauche, à droite, dans la région, ou de compter peut-être sur la MONUSCO ou de compter sur la région est-africaine. Je crois que la solution, c'est d'appliquer ces recommandations-là, et si nous appliquons ces recommandations, je crois que c'est encore possible de retrouver la paix à l'est du Congo.
Merci Maître Juvenal Mounoubou. Professeur Alphonse Mahindo, votre mot de la fin.
Alors, mon mot de la fin, c'est tout simplement que nous devons trouver les bonnes solutions pour la crise qui se vit à l'est du Congo. Et la bonne solution, c'est ce que nous n'avons jamais cessé de dire, c'est la réforme du secteur des sécurité, c'est aussi la lutte contre l'impunité en mettant en place les mécanismes de justice transitionnelle avec un tribunal pénal international pour arrêter tous ces criminels qui écument et qui détruisent notre pays, qu'ils soient au Congo ou à l'étranger, dans les pays voisins.
Merci, professeur Alphonse Mahindo. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Mathé, qui l'a réalisé avec le concours de Donna Madimba sous la supervision de Martin Sabujangwe. La mise en onde est assurée par Jean-Noël Mokondo, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.